Alors, donc on reprend la session de cet après-midi avec les retours des personnes qui ont été en atelier. Vous avez eu un certain nombre de questions. On vous a demandé d'échanger là-dessus, de raconter un peu ce qui se passe dans vos organisations, etc., à partir d'une grille. Alors, on va y aller maintenant sur les retours. Bon, c'est pas nécessairement important. Vous allez évidemment traiter de ce qui s'est fait dans différentes organisations, mais quand même, j'aimerais bien que vous vous identifiez parce que peut-être que les personnes pourront souhaiter venir vers vous pour savoir justement avoir plus d'informations détaillées. Voilà. Donc, on va y aller en commençant ici, puis on va...
Alors, bonjour, Marie-Christine Simard du CREPA, Conseil régional en prévention de l'abandon scolaire pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, pour nous, pour le thème 1, qui était les mesures favorisant la conciliation famille-travail-études, alors, on avait une personne de l'ENAP qui soulignait qu'il y avait des ateliers qui étaient offerts aux étudiants sur des sujets en lien avec la conciliation travail-études, un journal bien-être également qui était disponible, promotion des services, des bourses offertes également au niveau de la persévérance parents-études par le biais d'un concours. Également, au niveau du ministère de l'Éducation du Québec, il y a des activités d'intégration, possibilité de télétravail, flexibilité d'horaire, volet financier couvert par le perfectionnement et ou pour le retour aux études. Et au niveau du CREPA, c'est beaucoup le télétravail, la flexibilité d'horaire là, qui nous permet là, cette souplesse-là. Au niveau du thème 2, qui était les obstacles reliés à la conciliation famille-travail-études, nous avons l'ouverture des employeurs et des institutions qui font face au changement, ils doivent faire face au changement de vision par rapport à la réussite. On a également souligné le travail de sensibilisation à la méconnaissance des enjeux de la FCFTE, le retour aux études, les programmes institutionnels. Au niveau des ressources humaines, les enveloppes budgétaires restreintes et manque de main-d'œuvre, manque de temps dans les différentes fonctions également. Facteurs de risque de décrochage scolaire, aspects financiers, motivation scolaire, aspirations définies, gestion du temps, gestion du stress, charge mentale des exigences de chaque sphère, gestion familiale. Pour le thème 3, ce qui a été noté, alors comment peut-on mieux gérer les retours aux études en ce qui concerne la CFTE? C'est de pratiquer le lâcher-prise, tout d'abord, de voir que nos exigences envers nous-mêmes et la réalité, dans le fond, c'est un petit peu parfois difficile. Donc, c'est d'avoir un regard un petit peu plus souple envers cette réalité-là, d'accepter de faire une pause sur les opportunités et d'avoir un développement personnel aussi, d'être conscient de nos propres besoins et enjeux personnels. Ils font face aussi aux sacrifices financiers, donc avoir une bonne planification et préparation budgétaire, s'informer sur l'ensemble des bourses qui peuvent être disponibles, les financements qui ont lieu par rapport au milieu de travail également. Au niveau du filet social, bien, c'est d'avoir un réseau qui est supportant et aidant le plus possible. La priorisation des tâches et de ses besoins, on parle de sphère personnelle, familiale, académique, professionnelle. Donc, c'est de bien se planifier dans toutes ces sphères-là. Adaptation culturelle, se renseigner quant à la culture, le système académique, les exigences du métier d'étudiant et mesurer le réalisme du projet d'étude dans le but de réduire également le choc culturel. Par rapport au thème 4, les enjeux de l'approche aidance, alors c'est d'élargir les perspectives dans des tables de concertation et de communautés de pratique. Ce n'est pas un thème qu'on entend encore beaucoup. Le rôle porté par les proches aidants peut être lourd, complexe et souvent confrontant. Il faut beaucoup de patience, don de soi, une aisance, beaucoup de bienveillance. et se réapproprier un petit peu là, ce rôle. Ce n'est pas une norme d'être proche aidant. Il y a une augmentation des femmes dans le milieu de travail, donc une augmentation de la proche aidance en milieu professionnel et éducatif. C'est une préoccupation qui débute au sein de certains établissements. Ce n'est pas un sujet si populaire, mais on soulignait également là, que c'est une réalité qui touche même certains enfants qui peuvent être aussi au niveau de la proche aidance. On est rendu au niveau de connaître les enjeux et les réalités de la proche aidance et de sensibiliser les institutions et je dirais même entreprises aussi. Alors, les actions favorables en ce sens, c'est des mesures d'accommodement offertes et une reconnaissance de la proche aidance dans les politiques de la conciliation famille-travail-études. Il y a l'UCO aussi qui met en place, dans le cadre d'un plan d'action sur la proche aidance, une évaluation des besoins et de la réalité des proches aidants pour offrir une formation certifiée qui serait en 4 modules pour favoriser l'accompagnement aux personnes qui prennent soin. Alors, pour notre équipe, ça fait le tour d'un peu de tout ce qui a été noté. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Donc,
bravo. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Camille Deschamps. Je suis technicienne en éducation spécialisée pour le cégep de Valleyfield. Donc, nous, en fait, on était un groupe de cégep, en fait, qui ont été ensemble, donc un milieu qui se ressemble. Donc, on avait majoritairement les mêmes enjeux qui ont été relevés là, pendant notre discussion. Donc, en ce qui a trait le thème 1, donc tout ce qui est mis en place, en fait, là, dans nos milieux, il y a eu beaucoup au niveau de l'animation pour les parents étudiants qui avaient été mis de l'avant, mais qui incluait d'ailleurs les familles. Donc, un samedi où est-ce qu'on fait une thématique Halloween avec un potluck, les enfants sont les bienvenus. Donc, ça permet un moment où les enfants peuvent jouer ensemble dans un environnement contrôlé, tout en permettant aux parents de socialiser, de se créer un filet de sécurité, de discuter avec les intervenants qui étaient présents. Et la portion un peu plus potluck pouvait, entre autres, amener au niveau interculturel, que chaque personne pouvait partager un petit peu de leur culture. Ça permettait un effet brise-glace dans ce genre d'activité-là. Et donc, ça, c'est revenu pour quelques cégeps. Aussi, les autres mesures, là, donc, encore une fois, les horaires adaptés sont revenus. On a eu aussi les bourses d'études pour les parents étudiants qui sont revenus sur la table à 2 reprises pour 2 cégeps différents. Et aussi beaucoup le désir de mettre en place une politique. Donc, nous, on était des cégeps pour lesquels c'était un enjeu, pour lesquels on voulait développer des choses, mais que pour le moment, on est encore au statu quo. Mais il y a quand même ce désir-là des personnes qui sont attitrées aussi à ce projet-là. Donc, c'est vraiment un début de projet. Et la COTP a ici aussi été parler pour le système Clara, là, pour identifier ces parents-là, un coup qu'on sait qui ils sont, comment est-ce qu'on peut les maintenir dans notre système, comment est-ce que les profs peuvent les reconnaître dans leur fiche classe, comment est-ce qu'on peut les rassembler ensemble pour leur offrir une meilleure offre de services. Il y a aussi la halte garderie qui a fait surface. Un des cégeps avait déjà un CPE associé, mais c'est sûr que le nombre de places fait en sorte que ça reste un enjeu pour quand même beaucoup de parents. Et pour ma part, dans mon cégep aussi, là, dans le même thème d'idée là, avec la halte garderie, c'est le service communautaire, milieu familial, mais en milieu d'établissement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui sera mis en place éventuellement. Il y a même des ententes là, qui ont été nommées avec les partenaires des cégeps, par entre autres la coop qui pouvait offrir un rabais de 10 % Donc, si les parents venaient acheter, par exemple, le matériel scolaire de leurs enfants à cette coop-là, ben, ils leur donnaient un 10 % de rabais sur leur facture. Donc, ça pouvait diminuer certains coûts. Et déjà, avec les rabais quand vous êtes membre, ça peut devenir avantageux pour ces parents-là d'aller faire leurs emplettes à cet endroit-là. Et il y a aussi des frigos communautaires qui ont été nommés, donc avec des ententes, des partenariats externes, où on avait été HQ, évidemment, avec nous. Donc, au niveau nourriture, c'était un petit peu plus facile à renchérir au niveau des frigos communautaires. Et des programmes comme la friperie, et dont il y avait un moment où c'était particulièrement plus pour les parents étudiants de venir visiter et de venir chercher leurs choses. Donc, ça, c'est vraiment les accommodements qui sont sortis au niveau de notre thème 1. Au niveau du deuxième thème, donc les plus grands obstacles à la CFTE, c'est sûr que le manque de flexibilité parfois dans les horaires, quand on est dans des programmes techniques, par exemple, qui finissent plus tard, donc là, ça pouvait être plus difficile quand les nombres de groupes étaient insuffisants. Donc là aussi, c'était plus difficile. Ou il y avait les horaires atypiques, encore une fois, avec ITHQ, pour qui c'est parfois plus difficile avec leur programme plus spécialisé et leur offre de cours. Donc, des fois, ça venait vraiment difficile, en fait, de tout rallier ces programmes-là ensemble. Évidemment, celle qui est revenue pour tout le monde, en fait, c'est les ressources matérielles, financières et humaines. À quel point on l'a vu, en fait, ça a passé beaucoup dans les journaux en début de session, en fait, à quel point nos étudiants ont augmenté. On a plus d'étudiants avec nous, de moins en moins de locaux pour bien les accueillir. Comme quoi, c'était plus difficile, donc, d'avoir des locaux d'appartenance, ça devenait un enjeu, quelque chose de plus difficile à respecter. Au niveau des finances, en fait, certains devraient avoir des finances, ont été capables d'aller chercher des dons, mais que finalement, c'est jamais descendu jusqu'à leur programme. Donc, c'est un peu difficile de faire le suivi de « OK, c'est quoi nos possibilités? » Est-ce parce qu'on pourrait faire des choses à l'infini? Mais si on n'a pas les sous, ça devient un petit peu plus difficile. Et évidemment, les ressources humaines, là, on sait que ça devient de plus en plus difficile de recruter du personnel. Donc, ça fait que souvent, il y a une rotation au niveau des personnes de référence dans ce type de programme-là qui fait en sorte qu'il n'y a pas de pérennité qui se fait dans le programme. Une autre crainte là, et obstacle qui est revenu, c'est la résistance au changement dans la culture interne. Donc, on en parlait un petit peu plus tôt, donc le privilège, en fait, qu'on donnait, les avantages et non pas comme un système d'équité envers les différentes situations. Donc, beaucoup de nos accommodements actuellement reposent sur la souplesse pédagogique. Qu'est-ce que le prof a envie de décerner comme accommodement à son étudiant? Donc, ça, c'était un des gros enjeux. Le fait aussi qu'il y avait une vision non prioritaire au niveau du CFTI dans les milieux. Fait que comment est-ce que ça, on peut le ramener en avant puis en fait prôner à quel point ça peut être quelque chose de gagnant pour le milieu et pour les gens qui fréquentent ce milieu à long terme. Éventuellement aussi, là, j'ai rajouté, on n'en avait pas eu la chance d'en parler, mais les contrats de réussite aussi dans les cégeps, qui sont parfois très sévères, là, parce qu'il y a la norme gouvernementale, mais après ça, les cégeps ont encore du jeu pour aller évaluer. Puis souvent, les personnes qui sont les plus touchées, outre ceux qui ont des diagnostics, vont être les étudiants-parents, parce que parfois, ils ont moins le temps. Donc là, d'avoir la peur de se faire éjecter de leur cégep à cause d'un contrat de réussite, ça rajoute des facteurs de stress majeurs sur ces étudiants-là. Et là, je dirais qu'on a passé beaucoup de temps sur l'étape 1 et 2. Donc, l'étape thème 3 et 4 est un petit peu moins complète. Mais pour le thème 3, donc, comment on peut mieux gérer les retours? En fait, on a parlé de semaine zéro, donc des journées qui étaient mises avant le début de la session, avec des cours de méthodologie qui pourraient être mis de l'avant, entre autres pour les personnes qui font des retours, pour les parents étudiants, et en fait, et pour la communauté générale, dans un contexte EDI, on ouvre la possibilité à toutes ces personnes-là de se joindre. Donc, sur une base volontaire, donc comment prendre des notes, comment faire une bonne gestion de son temps, donc accueillir, faire la présentation des services dans un moment où, justement, c'est sur une base volontaire, donc il n'y a pas de pression d'excellence, c'est juste on veut bien intégrer la personne dans notre milieu pour qu'elle puisse bien identifier les mesures qui sont disponibles pour elle. Donc, il y a eu des tournées des classes qui ont été présentées aussi avec, entre autres, des présentations sur des logiciels, sur la gestion du stress, la gestion du temps qui était en collaboration avec les enseignants pour aller chercher plus facilement les étudiants qui, sur une base volontaire, ne se présenteraient pas, par exemple, à ces services-là. Et un autre service, en fait, idée qui est survenue, qui est très intéressante, c'est de faire un mentorat avec un autre étudiant par an. Donc, prendre un nouvel étudiant par an, en cibler avec une autre personne qui vit un peu une réalité similaire, puis voir comment est-ce que vous pouvez vous entraider et aller un petit peu plus loin, puis faire un partage de connaissances entre vous, afin de limiter là, les difficultés psychosociales, parfois, là, par les pairs. Thème 4, c'est celui pour lequel on a eu le moins de contenu, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on a vraiment peu de données sur les proches aidants au niveau des cégeps, du moins, parce que souvent, les étudiants vont pas eux-mêmes se considérer comme étant un proche aidant. Ils vont dire « Ah, ben c'est normal que je le fasse, ça fait partie de ma famille, c'est acquis. » Donc, pour eux-mêmes, ne s'identifient pas comme ça. Donc, quand nous, on fait des appels pour identifier ces personnes-là, mais ils ne lèvent pas la main. Donc, ça devient un petit peu plus difficile. Donc, on a un cégep qui avait un projet pilote au niveau des proches aidants. Ils ont eu zéro participation avec les étudiants qui ciblaient comme proches aidants, tout simplement parce que ces personnes-là ne se sentaient pas interpellées par le programme. Donc, ça ressemble pas mal à ça de mon côté. Merci.
Merci.
Donc, Elisabeth Doiron-Gascon, travailleuse sociale et CRIE, donc à l'INRS. Donc, dans mon équipe, j'avais le privilège d'être avec Marwa, Cindy, Sylvie, Annie et moi-même. Donc, je tenais à le souligner que ce fut une super discussion entre nous. Donc, pour la thématique numéro un, des mesures de l'établissement, bon, on a parlé de l'aménagement du temps de travail, des banques de congés qui existent. On parlait justement que peut-être que les banques de maladies devraient s'appeler autrement. la mise en place de politiques et tout ce qui s'ensuit. Il y a des CPE, des haltes garderies associées. Et donc, j'ai mis aussi la directive de soutien financier parental de mon établissement. On a passé beaucoup de temps sur la thématique numéro 2, donc les obstacles. Donc, on a quand même noté des choses assez différentes des autres équipes, donc je vais me permettre de vous les partager. On notait que certaines politiques donc vont jusqu'à l'âge de 13 ans ne couvrent donc pas les adolescents, par exemple, ou l'approche aidance. On notait aussi que les politiques et les ressources financières, on voudrait idéalement qu'elle soit plus homogène d'un établissement à l'autre. Moi-même, ayant 3 enfants dans 3 établissements d'enseignement supérieur différents, chacun fonctionne à sa manière. Donc, le thème aussi de la responsabilité familiale devrait être vraiment davantage promu plutôt que seulement étudiant-parent. La réalité aussi des étudiants étrangers, étrangères avec la loi de l'immigration. Donc, les étudiants aussi qui ne bénéficient pas de congés parentaux, ils ne les prennent pas parce qu'ils sont sur les systèmes de prêts et bourses de l'AFE, qui sont leur seul revenu. Donc, système qu'on disait somme toute assez désuet et qui aurait intérêt à être revampé. On notait également qu'on voudrait connaître plus précisément qui sont nos étudiants en termes de responsabilité familiale. On notait que les trajectoires communicationnelles dans nos établissements entre collègues et avec les étudiants étaient très complexes et que c'était quand même un enjeu important. L'arrimage aussi avec le registrariat et tous nos systèmes informatiques et de registrariat qui sont souvent très lourds, hein, et informatiquement, c'est pas facile de les arrimer. Et avec tout le personnel là, qui sont en contact sur la première ligne avec nos étudiants, on devra faire davantage d'arrimage, avoir accès à davantage de locaux pour, par exemple, la halte garderie ou nos CPE, etc. Beaucoup de travail en silo. Le système de financement des universités aussi, on notait qu'après 7 ans, nos universités ne reçoivent plus rien en termes de sous pour les étudiants qui dépassent ces délais-là. Donc, il y a peut-être aussi comme pas un grand avantage pour plusieurs universités de recevoir ces étudiants-là qui risquent largement de dépasser donc les délais et donc l'université ne reçoit plus de sous pour eux. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On disait que dans les gros établissements, c'est difficile de rallier toutes les parties impliquées. Mais il y a des postes avec des responsabilités plus précises, par exemple pour les étudiants parents. Dans les petits établissements, c'est plus facile de se frayer un chemin puis de travailler en collaboration, mais chaque employé a des grandes responsabilités puis des dossiers vraiment très, très diversifiés. Donc, c'est difficile de jongler sur la réalité, de toutes les réalités, disons, qu'on côtoie quotidiennement avec nos étudiants. On notait aussi que ça repose souvent sur le bon vouloir des individus. Donc, ça demeure très, très fragile. C'est pas comme systématique et pérenne. Les accommodements aussi sont vus comme trop souvent comme des privilèges. Il y a peu de souplesse de certains programmes. La responsabilisation individuelle de la grossesse ou de la parentalité. Et les règles des différentes instances qui s'entrechoquent, donc règlement aux études, immigration, prêts, bourses, etc. Thématique numéro 3, nous autres aussi, ça s'en va en déclinant. Donc, mieux gérer les retours aux études. On disait avoir peut-être des inscriptions plus tôt pour les étudiants qui sont parents ou proches aidants. Je ne répéterai pas nécessairement non plus ce que les autres collègues ont dit précédemment. Thématique numéro 4, on notait que la prochaine danse, pour certains établissements, s'intégrait, pour d'autres, non. On disait qu'à l'UQAM, c'était vraiment grâce aux étudiants et aux étudiantes que la politique inclut parentalité et proche aidance. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis on notait aussi que même pour les employés de nos établissements, c'est pas discuté, c'est pas intégré dans nos conventions. C'est même nous, on n'en bénéficie pas tant que ça de cette souplesse-là. Remue-ménage. Donc, on a quand même émis quelques idées intéressantes. On parlait d'avoir une loi cadre dans nos établissements, comme il y a eu pour les vax et la santé mentale. Tant que ce n'est pas imposé non plus d'en haut, nos établissements, ça reste à géométrie variable selon le bon vouloir de ceux qui sont en poste de pouvoir. Donc, on voudrait des lois cadres qui obligent nos établissements à se pencher sur la question de la conciliation famille. Avoir des arguments économiques pour convaincre à plus long terme, parce que c'est payant pour nous socialement que les femmes, principalement, poursuivent leurs études et réussissent et aillent des diplômes. Et puis, on parlait aussi que pourquoi c'est si facile pour nos étudiants athlètes d'avoir plein d'accommodements? Fait que nous, on a un souhait qu'on veut les mêmes accommodements que nos étudiants athlètes.
Bonjour, Martine Gélina de l'UQAT. Je tiens à préciser que je ne tenais pas absolument à revenir en avant. Mais dans mon équipe, il y a plusieurs personnes qui devaient quitter en avance, donc j'ai accepté de revenir au micro. Bien désolée pour vous de me revoir encore. Alors, donc j'avais des collègues de ETS, du Conservatoire de musique et du Collège Montmorency avec moi. C'était bien intéressant. Dans les mesures proposées, bien, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Là, halte-garderie, place en CPE, même si on sait que ça vaut ce que ça vaut, le système étant ce qu'il est, des frigos communautaires, des friperies, des bourses offertes, ce sont des choses qui sont revenues. À l'ETS, ils ont en fait, ils nommaient qu'il n'y avait pas grand-chose de formel, mais malgré tout, ils ont quand même un atelier offert pour la conciliation pour nos étudiants-parents, donc c'est quand même bien. Ils sont à l'affût des besoins aussi, les intervenants, de voir est-ce qu'il y a moyen de mettre en place des choses de façon informelle. Chez nous, à l'UQAT, on a trois types de mesures. On a vraiment les mesures de soutien parental que les étudiants peuvent demander là, au premier cycle. Surtout, là, si un étudiant... c'est toi, Annie, qui disait « on n'est jamais à l'abri d'une gastro ». Une gastro est si vite arrivée, donc c'est souvent comme ça qu'on s'adresse aux étudiants de premier cycle parce qu'ils peuvent demander des mesures de soutien parental. Hein. Si un enfant a la gastro, le travail de session vient de prendre le bord, il y a d'autres priorités, donc on offre ça. Pour les cycles supérieurs, il y a des congés familiaux courts ou longue durée qui permet d'allonger de 3 sessions supplémentaires le programme, le parcours. Et puis, on a des mesures institutionnelles aussi. Donc, le CAT, on s'engage à, lorsque c'est possible, d'offrir des haltes de garderie, par exemple, on a une salle d'allaitement on a un local qui s'est libéré miraculeusement. On a une salle d'allaitement maintenant au campus de Rouen. Donc, mesures institutionnelles, on commence tout petit, mais on souhaite en mettre plus en place. Donc, ça, c'est pas mal pour les mesures. Au Collège Montmorency, au niveau de la formation continue, il y avait quand même des entrevues individuelles qui sont faites avec chaque étudiant, parce qu'en AEC, c'est souvent des retours aux études. Donc, ça permet déjà de bien cibler les besoins, les suivis dans l'équipe. C'est une plus petite équipe, donc c'est plus facile de mettre en place des mesures adaptées pour les étudiants. Au conservatoire, ça viendra. Au niveau des obstacles, ce qui a beaucoup ressorti, c'est la culture de certains établissements où la culture est plus rigide, plus conservatrice. Certains nomment même un milieu, une culture plus masculine où on est moins à l'affût de cette conciliation-là, famille, travail, études, parce que souvent, ce ne sont pas les papas qui font, qui prennent les congés, ce genre de choses-là. Donc, c'est moins intégré dans la culture. Même la culture plus élitiste aussi qui a été nommée. La réalité financière, hein, les budgets, avoir des sous, des ressources pour mettre en place, ça a été nommé. Et également, tout ce qui concerne la liberté pédagogique des professeurs. Donc, à partir du moment où un étudiant, une étudiante demande une mesure de soutien, bien, n'en reste, même si on fait des recommandations, c'est le professeur, au final, qui a le dernier mot. Donc, ça reste, chez nous, à l'UQAS, ça reste quand même un enjeu majeur. On ne se le cachera pas. Même si la plupart des professeurs font preuve d'une belle collaboration, ça arrive parfois que ça devient difficile de trouver des compromis. Au niveau de la gestion des retours aux études, on a parlé d'une auto-identification, donc dès l'admission, pour qu'on puisse s'adresser rapidement à ces étudiants et étudiantes-là. Moi, là-dessus, j'ai levé un petit drapeau rouge. On s'est un peu peinturé dans le coin à l'UQAT, dans le sens que ça fait quelques années qu'on avait amorcé le processus. Et dans notre formulaire pour obtenir le statut d'étudiant-parent, bien, la loi 25, on n'était pas là à ce moment-là. Donc, je sais c'est qui mes étudiants-parents, mais je n'ai pas le droit d'entrer en communication avec eux de façon spécifique. Donc, une auto-identification, c'est une super bonne idée, mais il faut leur demander l'autorisation, après ça, de communiquer avec eux en tant qu'étudiant-parent. Je vous le dis, nous, faut qu'on révise nos trucs. Avoir une ressource dédiée pour les retours aux études, ça a été nommé également. Sensibiliser aussi à la réalité étudiante. Donc, lorsqu'on fait un retour aux études, qu'est-ce que ça va impliquer comme charge de travail? Surtout pour les étudiants de première génération qui ne réalisent pas nécessairement qu'au-delà des heures de cours, il y a aussi du travail qui est à faire en amont, que ce soit au cégep ou à l'université. Là, c'est les mêmes réalités qui ont été nommées. Et suite à ça, on a aussi parlé d'un bootcamp pré-session. L'ETS, ils ont un Eurofocus qui est bien, bien intéressant, là, qui permet de faire un arrimage, passage cégep-université. Ils l'ont aussi pour les cycles supérieurs. Donc, un petit atelier là, c'est 2 jours chez vous, si je ne me trompe pas. 2 jours. Et il y a un cours aussi de 1 crédit hors programme. Donc, c'est ça, avoir un atelier. Puis, tu le nommais bien, Daniel, que tu avais eu accès à plusieurs savoir parce que tu avais fait une implication, mais si on peut donner accès à ces savoirs-là de façon plus formelle, sur une base volontaire, mais c'est sûr que ça faciliterait la persévérance des étudiants, surtout au retour aux études. Et finalement, au niveau de l'approche aidance, c'est le sujet qu'on a eu le moins de temps, mais les intervenantes nommaient que c'est une réalité qu'elles voient dans leur bureau, mais qui n'est pas tellement abordée au niveau institutionnel. Chez nous, à l'UQAT, on a quand même eu le souci de l'inclure la prochaine danse dans notre politique, entre autres parce qu'avec notre service Premier Peuple, au niveau des Autochtones, ben la famille, c'est déjà la famille, la communauté. Donc, on avait déjà ce souci-là. Donc, on l'a inclus la prochaine danse dans notre politique. Mais pour le moment, on en a très peu là, d'étudiants qui se nomment prochaine danse. Voilà, ça fait le tour.
Alors, bonjour, Patricia Forgue, technicienne en travail social au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai la chance de superviser la magnifique équipe de Radar. On a un volet par an aux études. Puis, dans les discussions qu'on a eues, d'emblée, ce qui ressortait beaucoup, c'était toute la part de légitimiser le côté social, le côté aussi de s'inspirer des uns des autres. Je réponds un peu à la dernière question, mais parce que ça fait... C'est un peu toutes les réponses sont dans la dernière, de s'inspirer, d'être ensemble. On était comme, bon, on va pas réinventer la roue. Donc, ce qui se passe en ce moment, on trouvait ça extraordinaire. Donc, déjà d'emblée, c'était ça qu'on retenait. C'est très riche. Une des choses, c'est vraiment un aspect social très fort, comme par exemple, dans la question 1, l'INRS nous parlait des bourses de, je vais mettre congé parental. Il y a une personne qui nous disait, mais arrêt parental, puis je trouvais ça, on a trouvé ça super parce que ça démontre le vocabulaire, l'impact des mots, qu'il y a peut-être quelque chose à transformer dans notre socialisation, la manière que c'est apporté, autant pour la prochaine danse que pour l'aspect de la réalité des parents aux études. Puis aussi, toute le, c'est ça, la responsabilité sociale, dans le fond, qu'il y a derrière. Pour l'INRS qui était avec nous, c'est ça, il y avait le congé d'arrêt parental. Il y avait aussi... il y avait une suspension permise pour une naissance ou adoption qu'on trouvait super intéressant. L'UQAM, ben, tantôt ils ont parlé, mais l'aspect de la politique, aussi la reconnaissance, encore un apport social, la reconnaissance pour le comité parent, le groupe étudiant d'envergure, qui leur permet d'aller chercher des fonds. Enfin, encore là, une reconnaissance auprès des directions, encore quelque chose de structurel qui ressort, qui était très intéressant. Qui permet d'aller chercher des moyens. Sainte-Foy, la politique parents aux études, ils ont un super local. Ça a l'air magnifique. Moi, j'étais comme, on veut ça. Ouais. Puis avec une place comme un comité où les gens se sont appropriés l'espace, une question d'identité, une question d'appartenance. Donc, valoriser l'identité, c'est ça qui ressort beaucoup. Puis comprendre mieux les données socio-économiques pour mieux comprendre la réalité. Intersectionnalité, ça ressort encore. Maradar, bon, ben nous, on est une porte d'entrée, dans le fond, pour les parents étudiants, pour faciliter l'accès aux autres services, mettre des choses de l'avant. Dans le fond, nous, on a la chance de pouvoir organiser les choses. Puis on embauche aussi les parents étudiants, fait que ça donne ça devient comme un comité, puis on leur donne un opportunité de travail pour développer dans ce qu'ils étudient. C'est juste vraiment très le fun. Bon, puis notre politique, elle n'est pas parfaite. Mais c'est un début. Puis tout ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est des choses qu'on va ramener. Donc, merci énormément. C'est ça, je ne vais pas répéter parce qu'on a beaucoup nommé de choses. Puis tantôt, Camilla a très bien exposé là, ce qu'on fait. Les plus grands obstacles, ben, ça a beaucoup été nommé. Là. Bon, le temps, l'argent, l'isolement. Ce qui ressortait aussi, c'était encore peut-être une question. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de questions là, de... Bien, c'est ça, légitimer, rendre l'accès plus facile. Et un point que je trouvais qu'on n'a pas beaucoup temps parlé, c'est l'espèce de performance puis le droit. Je m'excuse si je ne dis pas les bons mots, là, la personne qui l'avait dit, mais pas juste être un. Tu sais, comme le droit de. C'est comme si la personne se doit de performer. Oui, on le sait, il y a une pression. Tantôt, on a parlé beaucoup aussi de toute la fierté pour les enfants, être un bon modèle, mais que les parents ont le droit de faire d'autres choses aussi. Puis de valoriser ça, l'aspect social dans la globalité qu'une personne, pour qu'elle puisse s'épanouir, pas juste dans ses études, mais dans l'entièreté de ce qu'une personne peut vouloir ou est. C'est ça, les ressources matérielles. Ben, le logement ressortait aussi, tout l'aspect social, encore une fois, que pour les... peu importe quelle personne, là, en ce moment, on le sait, là, tout l'aspect social ressort encore. Excusez-moi, je suis TTS. Fait que l'aspect social, ça me heurte à chaque fois. Les barrières de l'établissement, ben effectivement, la question des profs est ressortie. Nous autres aussi, là, le fameux privilège là, qu'on entend toujours. Moi, perso, je faisais le parallèle. Bon, je suis en situation d'handicap, fait que je me disais, mon Dieu, mais c'est les mêmes arguments plates qui ressortent. Là. Toutefois, les parents étudiants, le droit n'est pas assez clair. Donc, des politiques, des lois, ça serait super. Que ce soit plus clair dans la charte aussi. Excusez-moi. Ben, culture de la performance. C'est ça. J'ai résumé finalement ce qui est écrit là. Ouais. Comment mieux gérer le retour aux études? Ben, un peu l'accès... L'accès aux données, on en parlait tantôt, là, l'accès d'avoir un recensement. Mais effectivement, il faut demander le consentement. On fait face à ça, nous aussi, au Cégep du Montréal. Une des choses qui nous aide, c'est qu'il y a un sondage qui est fait par la vie étudiante. Toutes sortes de questions, puis on leur demande, êtes-vous parents? Mais par la suite, il faut leur demander, voulez-vous qu'on communique avec vous? Puis là, ben, y a quelques personnes qui s'enlèvent, mais ça marche quand même bien. C'est une manière assez extraordinaire d'aller chercher... Ouais. Plus de ressources, plus de flexibilité par rapport aux services de garde. Ça, c'est quelque chose qui ressortait. Vraiment faciliter l'accès, sortir d'un moule qui est de 9 à 5. Il y a plusieurs réalités, avoir des haltes garderies. Je regarde Annie, mais en avoir plus de ressources. tout ça. Et pas de loyer, oui. Donc, une reconnaissance vraie de ce que les besoins réels. C'est ça... Bon, la question des athlètes revenait aussi. Tantôt, je riais quand c'était dit, là. Oui, donc ça démontre aussi, encore une fois, le côté performance, le côté comment parler à nos institutions pour qu'ils valorisent. Ouais, ben c'est un peu ça. Ça revient à la question de la productivité, sortir de ça. La question des modèles est importante aussi. Que les enfants se promènent, on en parlait, que c'est le fun quand il y a des enfants. On parlait aussi quand il y a eu la grève. Nous, il y avait plein d'enfants dans l'école, à l'UQAM aussi. Puis ça amène un aspect de, ben c'est ça la vie. qu'on trouvait ça le fun. Peut-être qu'on devrait faire des journées. En tout cas, enfants à l'école. À école pour tout le monde. ça serait super. C'est ça. Bien évidemment, écouter les gens concernés. Les contextes interculturels, on en a beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui revient à vraiment considérer. Sortir de l'hétérosexisme aussi, ouvrir, se poser la question, c'est quoi la famille, la responsabilité sociale, c'est quoi les familles. Voilà. Ben mon Dieu, j'ai fait le tour. Puis pour ce qui est des remue-ménages, j'ai des bonnes idées là, qui ressortaient. Je pense que c'était une fois, mais beaucoup de l'avant dans la communauté, l'aspect de la diversité, puis que les enfants sont là, puis qu'il y a toutes sortes de réalités parentales et que c'est une responsabilité sociale.
Bon, mais c'est bien de passer en dernier. J'ai plus grand-chose à dire. Déjà qu'avant, j'avais plus grand-chose à dire. Mais je vais prendre quand même 5 minutes, hein, c'est ça? Donc, je vais vous compter. Je vais commencer avec une blague. Philippe Boucher, psychoéducateur à la TELUC. Donc, ce que vous voyez ici, c'est notre environnement de pas-travail. Parce qu'on est vraiment l'université, dans le fond, qui est totalement à distance. On offre des cours asynchrones. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas d'étudiants qui sont dans la bâtisse. Il y a peu de travailleurs aussi ou d'employés qui sont là. Mais donc, pour dire qu'à la TELUC, on est déjà pas mal aménagé au niveau de ce qui est de conciliation, travail, famille, études. Parce que, bon, tout est asynchrone. On est tous à distance pour la plupart. On vient travailler une fois par mois, une fois par semaine, dépendamment des départements, dépendamment des boss, là, ce qu'ils vont nous dire de faire, dans le fond. Là, des fois, ça va être une fois semaine, des fois deux fois semaine, des fois une fois par mois. Moi, j'ai la chance d'être là une fois par mois seulement pour... Sauf que tout se fait, donc, à distance. On offre aussi, par exemple, là, moi, je travaille au niveau du service aux étudiants. C'est sûr que les services aux étudiants, bien, on s'entend, c'est synchrone quand on offre de la consultation, par exemple, bien, ça se passe en direct, en virtuel, on est là. Toute l'équipe, d'ailleurs, qui travaille, par exemple, service aux examens, ils sont quand même là en temps réel, sont là. On a aussi des offres, des heures de disponibilité, par exemple, aux services techniques qui sont au-delà des heures d'ouverture normales pour vraiment se coller, dans le fond, à l'horaire de l'étudiant. Puis chez nous, les étudiants, c'est vraiment des étudiants qu'on dirait... Bien, l'étudiant type, c'est une femme, 35 ans, retour aux études, qui vient compléter des cours, donc études à temps partiel. En tout cas, c'est un petit peu, et souvent en administration. Donc, c'est un petit peu le cas typique de l'étudiant à TELUC qui, justement, vient à la TELUC parce qu'il y a besoin d'aménagement, parce qu'il y a une réalité de travailleur, parce qu'il y a une réalité aussi de famille monoparentale ou autre, mais disons des réalités beaucoup différentes au niveau de la famille. Il y a aussi beaucoup des étudiants de première génération, donc qui ont besoin souvent d'assouplissement aussi à bien des égards. Dans l'immigration aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent là, situation de handicap, aide financière, donc on retrouve un petit peu toutes ces réalités-là. Puis ce qu'on se disait, c'est que mais la TELUC, on se trouve déjà quand même quelque part adapté, puis c'est peut-être un petit peu notre talon d'Achille de se croire très adapté, peut-être. Fait que c'est là que, quand on disait les obstacles, c'est qu'on se croit peut-être déjà bien adapté. Fait qu'il va falloir vraiment chercher. On se demandait, est-ce que ça vaut la peine de faire une politique pour officialiser, dans le fond, ce qu'on fait déjà de bien par rapport à tout ça? En tout cas, il va falloir certainement, pour au moins mieux le nommer, mieux l'officialiser. Encore là, tantôt, quand tu parlais de loi ou des choses comme ça, des contraintes, parce que là, actuellement, c'est tout est là pour favoriser, disons, la conciliation travail-famille. Mais disons que tout peut changer dans ce monde-ci, fait que c'est un peu le temps aussi d'asseoir les choses telles qu'elles sont. Donc, important de passer peut-être, si c'est pas au moins à une politique, disons, qui officialise ces grandes lignes-là, mais d'en faire comme la publicité aussi, ou de faire en sorte que la TELUC se positionne comme étant une université à distance, puis qui nomme vraiment les aménagements qu'il est prêt à faire dans ces contextes-là, ou ce qu'il offre déjà. Donc, mieux gérer le retour aux études, bien, je pense que c'est de faire connaître d'abord et avant tout aussi toutes les ressources, ressources d'encadrement, ressources de soutien aussi qui sont là pour vraiment accompagner les étudiants qui vivent des réalités, parce que c'est souvent ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils savent pas qu'il y a des services, ils savent pas qu'il y a des mesures, ils savent pas qu'il y a des ressources. Donc, c'est beaucoup de faire encore là l'éloge de nos ressources, la publicité de nos ressources en tant que telles, en général, tant au niveau examen, études, services psychosociales, tous ces services-là, pardon, qui doivent, excusez, c'est le micro. C'est pas moi, c'est le micro. La prochaine danse, on avait cette petite discussion-là parce que dans notre équipe de travail de réflexion, dans le fond, on était deux personnes. C'était avec ma collègue, dans le fond, de la TELUC, Marie-Ève, qu'on travaille tous les deux au service psychosocial, dans le fond, parce qu'on est arrivé en retard. Puis, bref, on a travaillé ensemble là-dessus. Mais on se disait, quand on se parle de conciliation en même temps, on fait peu de distinction entre l'approche aidance puis les étudiants-parents, en fait, parce qu'on se dit que c'est quand même la même réalité de devoir quitter ses études pour consacrer son temps à d'autres tâches, c'est-à-dire d'occuper, de s'occuper de d'autres personnes. Donc, on se dit, qu'est-ce qui est en jeu dans le fait? C'est encore là du dégagement, du temps. Fait que, puis comme un peu de la même façon qu'à la télé, nous autres, on a décidé d'y aller dans une politique en santé mentale, mais intégrée, c'est-à-dire à l'ensemble de la communauté qui regroupe tant les étudiants que le personnel. Bien, on se dit, si on va aussi dans la même logique, on pourrait très bien aller dans une logique de dire, bien, si on met de l'avant une politique d'intégration, par exemple, ou une politique de conciliation de famille, travail, études, mais pourquoi pas y aller aussi dans l'ensemble, puis de dire, bien, on va y aller pour la communauté, parce qu'on est tous... Parce que quand je nommais un petit peu l'étudiant typique, dans le fond, c'est un travailleur qui travaille 35 heures, qui a un cours on the side, puis donc qui a tous ses besoins des mêmes aménagements probablement aussi que les employés de la TELUC. Donc, c'est ça qu'on se dit, bien, tant qu'à y aller vers une politique ou en tout cas des écrits, est-ce qu'il y aurait moyen de regrouper tout ça comme on l'a fait au niveau de la politique en santé mentale? Fait que c'est un petit peu en tout cas la réflexion qu'on a, puis c'est la volonté certainement qu'on a, nous autres, de se positionner au niveau du service un peu plus comme macro, hein, de dire ben c'est tout le système que ça concerne. Alors, à ce moment-là, on va l'agir en tant que tel. Puis, dans les petites remue-ménages, dans le fond, là, on se demandait en même temps, bon, des garderies, est-ce qu'on pourrait pas se trouver des partenaires, parce que la TELUC, on est intermondial. mais c'est de se dire, est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait faire des partenariats avec certaines institutions, par exemple, à Québec, de voir certains lieux où on pourrait pas avoir d'offrir, par exemple, des haltes garderies, des choses comme ça. Quoique, c'est ça, la plupart des étudiants, on se dit, bien, ils ont déjà leur réseau, sont déjà installés, tout ça. Fait qu'on veut pas créer de besoins non plus, mais il faut se questionner, en tout cas, est-ce qu'on pourrait en faire plus encore, même si on est tous décentralisés puis tout se passe à la maison de façon générale. Donc, peut-être là, le défi de continuer à creuser puis de voir avec nos collègues de l'INRS, entre autres, qui ont certainement des bonnes idées, mais... Ben oui! Voilà, c'était la TELUC. Merci.
Merci. Merci beaucoup à toutes les personnes là, qui ont ramassé les échanges. Est-ce que s'il y a des personnes qui voulaient ajouter des choses, que ça n'a pas été, des choses qui n'ont pas été dites, que vous avez... Oui, vas-y. Vas-y.
J'ai oublié pour la prochaine danse, ce qui est ressorti. Nous autres, c'est aussi... en tant que personne, qu'est-ce que la prochaine danse finalement? Puis est-ce que les gens vont venir? Parce que s'ils ne s'identifient pas, parce qu'il y a comme une espèce de... C'est internalisé, là, c'est comme normal dans notre société. Donc, vraiment sensibiliser à c'est quoi pour aller chercher les personnes. C'était un point que je trouvais important de nommer. Puis bravo pour l'aspect global de vos politiques, de penser à une politique pour la communauté. Moi, je trouve que ça, c'est une des choses, nous, qu'on demandait. Puis bravo, vous pourriez être un beau modèle. Oui, go, faites des politiques.
Moi, on m'a dit, je suis conseiller au soutien des étudiants. Je me suis dit, non, je vais être conseiller au soutien pour soutenir les étudiants, donc c'est que ça soit vraiment à l'ensemble.
Mais c'est vrai que vous avez évoqué, par exemple, les professeurs. C'est sûr que nous, comme professeurs ici, c'est assez aidant le fait de pouvoir... Bon, les étudiants ont des choix de date d'examen, ils peuvent les faire en ligne. Donc, c'est sûr que pour une personne qui est parent-étudiant, de ne pas avoir à se déplacer à un moment qui, en plus, est imprévu dans son horaire, c'est vraiment quelque chose de bien. Les reports sont assez faciles aussi, on les prévoit. Donc, on a cette flexibilité. Moi, j'ai enseigné sur campus auparavant. Donc, je considère qu'il y a quand même des éléments qui nous aident parce que, comme vous l'évoquez, c'est certain qu'un professeur qui reçoit une demande, on en reçoit de toutes sortes. D'ailleurs, comme je l'évoquais, le hockey, le machin. Bon, et des fois, les grands-mères sont mortes 4 fois. Alors, tu dis, bon, d'accord. Je trouve que le fait d'avoir... à la fois, dans certains cas, des politiques, d'avoir une identification des personnes, ça aide. Parce que les gens veulent souvent bien faire, mais on sait très bien que toutes les personnes ne sont pas toujours motivées. Donc, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie vraiment pour ces comptes rendus-là. Vraiment, c'est très riche. Je pense que ça nous rappelle, d'ailleurs, le fait qu'on soit spontanément passé vers la prochaine danse. Moi, j'ai commencé à travailler, je travaillais sur la conciliation emploi-famille-parentalité. D'autre part, les personnes vieillissantes, la prochaine danse. Puis, à un moment donné, tout ça, ça vient, ça se rejoint. Et on finit par parler de la conciliation vie personnelle, professionnelle, tout au long de la vie, tout au long du parcours de vie. Alors, notre directeur enseignement recherche va faire un petit mot de la fin. Moi, je vous rappelle donc que la journée a été filmée par nos équipes audiovisuelles de la TELUC, que je tiens à remercier, audiovisuelles et technologies de l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Valérie. Plusieurs d'entre vous avaient parlé. Valérie Harvey, qui a fait le rapport qui est disponible en ligne et qui, je pense, peut vous inspirer et qui a organisé tout ça, les contacts, pour choisir les bonnes personnes puis s'assurer que les personnes viennent et se sentent à l'aise d'intervenir. Les projets pilotes aussi qu'on accompagne. Donc, n'hésitez pas à entrer en communication avec nous à nouveau. Il y a un site web, il va être complété avec les éléments d'aujourd'hui. Et puis vraiment, je vous remercie beaucoup de vos contributions parce que c'est vous qui alimentez. Et on va vraisemblablement se retrouver aussi dans 2 ans parce qu'on aura une deuxième journée de sensibilisation qui est prévue dans ce projet. Puis là, vous pourrez nous raconter tout ce que vous avez fait depuis, qu'on s'est parlé puis qu'on vous a donné toutes ces bonnes idées. Alors, j'arrête là-dessus puis je vous remercie beaucoup.